tous, Dieu vous bénisse.
Nous sommes encore vendredi soir, comme chaque vendredi soir, je ne sais pas si vous avez remarqué.
Je vais profiter du fait que nous sommes tous ensemble pour vous remercier tous pour ce merveilleux week-end que, enfin, le week-end que vous nous avez fait passer, le dernier, avec la présentation et les anniversaires et tout ça, c'était très très bien, c'était magnifiquement fleuri, la nourriture était bonne, tout était bien, c'était magnifique. Enfin, tous nos invités ont été ravis, contents de nous revoir et de voir toujours cette qualité d'infection fraternelle que nous avons parmi nous. C'était magnifique. Merci encore à tous. Que Dieu vous bénisse pour tout cela. Ce soir, on va lire un proverbe. Proverbe que j'ai déjà, sur lequel j'ai déjà prêché. Il se trouve dans, c'est le proverbe 16. Verset 4. J'ai déjà parlé de cela, mais j'aime ce verset. Enfin, je les aime tous, mais celui-là, il me parle plus que d'autres encore depuis quelque temps. Le Seigneur a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Faites-vous asseoir, frères et sœurs. Il y a quelque temps, je vous enseignais que tout est au service de Dieu. Je vous disais, en prenant l'exemple de l'histoire de Job, que même Satan ne peut faire que ce pour quoi il était programmé. Et donc, dans ce monde, il n'y a aucune autre source de puissance que Dieu. C'est en Dieu que se trouve la toute puissance. On l'appelle le Dieu tout-puissant. Et en dehors de Dieu, il n'y a rien, aucune puissance, aucune place pour une autre puissance puisqu'il a la toute puissance. Il faut arrêter de penser. Les mots ont une valeur. Il faut arrêter de dire des mots et puis penser à autre chose. Or, Dieu a créé un système dans lequel nous évoluons et là, la dualité se manifeste. Il y a, j'ai eu l'occasion souvent de vous le dire, le jour, la nuit, le masculin, le féminin, le grand, le petit, le bien, le mal, le haut, le bas, etc. Et tout ça le sert. Tout ça sert Dieu. Ça veut dire que tout ça lui est utile. Tout ça a été créé dans un but. Dieu sait très bien ce qu'il veut. Et tout ce qui nous semble être une longue histoire, en fait, c'est pour en arriver au point où Dieu veut en arriver. Et ce qu'il veut, il l'aura, il l'a. Et on ne peut pas passer à côté. Il a tout planifié. Alors, à nous qui sommes nés de nouveau, il nous a donné des pouvoirs. Il nous a dit beaucoup de choses, mais entre autres, deux phrases très fortes. Tout est possible à celui qui croit et rien ne peut vous nuire. Alors, tout ça sous son contrôle et sous sa directive active. C'est-à-dire que tout est possible à celui qui croit. Nous croyons en lui, nous croyons dans ce que nous faisons, nous croyons en nous-mêmes, nous croyons dans nos capacités, nous croyons dans la bénédiction de Dieu, nous croyons qu'il est tout-puissant, nous savons que nous nous sommes remis entre ses mains et nous nous soumettons à lui. Rien ne peut nous nuire, tout est sous son contrôle. Mais maintenant, on va disséquer un peu tout ça. Ça signifie que tout ce qui n'est pas encore réalisé a un certain nombre de chances de se produire ou de ne pas se produire. Tout l'art de la foi en action, parce que la foi c'est une action, consiste alors pour nous à faire pencher la balance du côté que Dieu veut. Tout est possible, ça signifie qu'il n'existe pas de probabilité nulle. Ça signifie que rien de ce que nous pouvons imaginer n'est fondamentalement impossible. Il y avait un monsieur qui s'appelait Archimède. Il disait, donnez-moi un levier assez long, un appui, un endroit où l'installer, cet appui, et je peux vous déplacer la Terre. Et c'est vrai. Nous avons deux de ces trois choses. Dieu nous a donné deux de ces trois choses. La première chose, c'est le levier, c'est-à-dire notre foi qui est absolue. Et puis nous avons le point d'appui pour le levier, c'est-à-dire ce que Dieu a dit. Nous ne posons pas notre levier n'importe où, nous ne posons pas nos actes de foi n'importe où, mais sur ce que Dieu a dit. Il nous reste juste à trouver l'endroit où installer tout cela. Installer la parole ou poser notre foi. Par exemple, nous avons la foi que les malades ont été guéris à cause des meurtrissures de Jésus. La Bible est très claire, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos maladies, mais l'endroit où placer la parole de Dieu, où est-ce qu'on va la placer? Sur quel malade? À quel moment? Des fois, on prie, puis il ne se passe rien, puis des fois on prie, puis il se passe quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'il nous manque ce point, cette place, l'endroit où on doit placer notre levier, l'appui on l'a. Le levier on l'a, c'est juste la place. On va y venir, on va y réfléchir. Tout ça, ça reste du domaine. Dieu nous laisse ce qu'on appelle notre liberté, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'initiative. Dieu sait où il faut placer, mais il ne nous dit pas où il faut placer. Il ne nous donne pas la connaissance de ces choses. Il nous dit juste, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, priez pour les malades, guérissez-les, voilà. Mais il ne nous donne pas des choses très précises. Certains serviteurs de Dieu, comme William Branham, ne priaient que sur révélation. Personnellement, je n'en suis pas encore là. Mais c'est là qu'on doit en venir. C'est là qu'on doit en venir. Un autre exemple, nous avons foi, que nous pouvons parler aux montagnes en leur disant avec foi, au nom de Jésus, change de place, va par là-bas. C'est ce que Jésus dit. Cependant, sur le nombre de montagnes qu'on a cherché à déplacer, combien se sont vraiment déplacées? Je veux dire, les grandes difficultés, nos montagnes de difficultés, quand on leur a commandé de faire ceci ou de faire cela. C'est là le seul problème que les disciples de Jésus rencontrent. C'est où placer tout ça? Où placer cet appui? Où placer ces paroles que Jésus nous a données? Sur qui? Dans quelles circonstances? C'est à ce point-là qu'il existe autant de chances pour qu'un événement se produise ou ne se produise pas. Donc c'est très important. Il faudrait qu'on sache. Il faudrait qu'on connaisse. Ceux qui veulent que tout fonctionne à tous les coups, alors ils finissent par se fâchés, par se fatiguer, par se lasser, parce qu'ils sont un peu, voilà, ils annoncent des choses très claires, Jésus va guérir, puis après il ne se passe rien dans la réunion, puis ils sont malheureux, alors au bout de quelques années, ils se refroidissent, ils disent, oui, moi je ne comprends pas, je ne sais plus, ou ils imposent des mains à deux, trois malades, puis ils disent, bon, je n'ai pas reçu le don de guérison, parce qu'il n'y a pas eu de guérison. Ceux qui ont les deux choses, c'est-à-dire le levier, la foi, l'appui, c'est-à-dire la parole de Dieu, et qui sont humbles, qui sont soumis de cœur, ceux-là, ils continuent à œuvrer et ils deviennent de plus en plus experts. Ils commencent à savoir de plus en plus où poser leurs actes de foi, la parole de Dieu. Je vais vous montrer une chose qui va vous éclairer. Tout est serviteur de Dieu, tout sert Dieu. Même le mal qui nous arrive, en fait, concourt à notre bien et à la gloire de Dieu. Mais ceux qui seront récompensés sont ceux qui ont Jésus pour modèle et qui s'efforcent de faire connaître ce modèle aux autres. C'est ceux-là qui seront récompensés. Parmi tous les serviteurs de Dieu, le diable ne sera pas récompensé. Ceux qui ne servent pas Dieu de cette manière-là auront à souffrir et finiront mal. La Bible, dans Matthieu 25, 21, nous dit qu'il y a des bons et fidèles serviteurs. Le bon et fidèle serviteur sait que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer par ses actes de foi. Alors, il crée l'avenir des gens pour qui il prie, des gens à qui il prêche, il crée l'avenir de ceux qui l'écoutent, il crée l'avenir de ceux qui le croient, il crée l'avenir de ceux qui croient fidèlement à l'enseignement fidèle qui leur est donné. Par exemple, si un fidèle et bon serviteur veut la guérison, ben il faut qu'il prêche la guérison. Frère Osborne m'a dit au début de mon ministère, si vous voulez obtenir quelque chose, il faut que vous parliez de ces choses. Beaucoup de prédicateurs parlent du salut, du salut, du salut, puis à la fin ils donnent juste, ils disent maintenant on va prier pour les malades et ils s'attendent à avoir des guérisons. Mais ils n'ont pas donné la parole de guérison. Qui élève la foi, qui soulève les montagnes. Donc, ils ne peuvent pas s'attendre à beaucoup de choses. Si on veut l'abondance matérielle, il va falloir enseigner la parole qui concerne l'abondance matérielle. Et alors, elle va se produire chez ceux qui écoutent et qui croient l'enseignement qui leur est apporté. Cela crée donc l'avenir. Voyez la parole. Il y a donc de bons et fidèles serviteurs, selon Matthieu 25, 21, mais il y a aussi d'autres serviteurs, comme le diable, mais d'autres choses aussi. Hein. Ils le servent, mais mal, c'est-à-dire avec des intentions égoïstes. Ils sont appelés, dans Matthieu 25, 26, mauvais et paresseux. Ils sont des serviteurs de Dieu, parce que tout est au service de Dieu. Et c'est en cela que je rejoins aussi le prophète Branham quand il disait que le diable ne guérit pas. C'est toujours Dieu qui guérit. Le diable n'a pas la puissance de guérir. C'est Dieu seul qui a la puissance de guérir. Nous avons, nous, la vie éternelle, nous qui connaissons Dieu, nous avons les pouvoirs pour provoquer des changements afin qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu au travers de nous pour sa plus grande gloire. Il veut se servir de nous pour sa plus grande gloire. D'après Éphésiens 3:20, on a appris que nous avons le pouvoir d'exercer nos pensées, de maîtriser nos pensées en les ajustant avec nos prières. Donc nos pensées doivent être très claires. On a appris ça, Éphésiens 3:20. Hein. Dieu va au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous prions. Pour nous, en faisant cela, nous apprenons petit à petit à développer le pouvoir de maîtriser les coïncidences. Pour Dieu, un miracle, ce n'est pas un miracle. Et il faut que pour un enfant de Dieu, un miracle devienne de moins en moins un miracle. Il faut que ça devienne sa nature. Nous avons à apprendre à maîtriser les circonstances et coïncidences. Nous avons à apprendre à augmenter les possibilités. Mais pour cela, il faut que nous nous collions de plus en plus à la parole de Dieu. Non seulement dans la connaissance, mais dans la pratique de la parole de Dieu. Nous avons à provoquer les choses. Nous en avons reçu l'ordre, allez, faites ceci, faites cela. Hein. Et pour avoir un maximum de rendement, pour avoir un maximum de réussite, selon les promesses de Dieu, nous sommes invités à passer du temps à écouter Dieu. Pas seulement à demander, mais à écouter Dieu. Et là, il y a un secret. Là, il y a un secret à côté duquel beaucoup passent. Le monde a perdu la signification des mots. Et quand le vocabulaire, quand le verbe perd s'appauvrit, eh bien, le niveau spirituel, le niveau moral, tout dégringole. C'est vérifiable. Par exemple, un mot qui choque les chrétiens. Savez-vous ce que c'est qu'un devin? Tout de suite, on dit devin, on pense à quelqu'un de maléfique. Eh bien, non, pas du tout. Le mot devin, c'est parce que le mot a perdu de sa signification. Le mot devin signifie littéralement celui qui dit la vérité. Un prédicateur est un devin. S'il dit la vérité. C'est ce que la Bible appelle un prophète, un porte-parole, quelqu'un exerçant un ministère. Alors, quelqu'un qui sert Dieu avec la parole, qui dit la vérité, c'est un prophète, ça c'est le mot biblique. Le mot français, pour sorcier et compagnie, machin, c'est devin. Mais remarquez qu'il y a des prophètes qui sont faux, donc il peut y avoir des devins qui sont vrais. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut se laisser impressionner par rien. Si nous connaissons la valeur des mots, il n'y a rien qui nous retient. Nous savons qui nous sommes. Et nous n'avons peur de rien. La confusion des mots. Mais la confusion, elle va partout. Il n'y a pas très très longtemps, nous avons fait au château ce que nous faisons tous les premiers dimanches du mois, c'est-à-dire le lavage des pieds. Donc, il y avait là un serviteur de Dieu et je l'en ai parlé. Il a accepté avec joie de faire le lavage des pieds. Et puis, j'ai pris quelques photos. Et puis, après, il m'a dit, ah, tu ne vas pas les publier, ces photos, hein, parce qu'ils vont me tuer. Vous voyez? Parce que ça fait penser aux adventistes du septième jour, hein, ou aux branhamistes. Il ne faut surtout pas dire que voilà, c'est terrible. Avoir peur de passer pour un faux. Alors que le geste posé était juste et qu'il savait que c'était juste. Et c'est comme les gens qui disent, ah bon, vous pratiquez le baptême pour les morts? Comme les mormons? Non! Comme la Bible dit. La Bible parle de ça. Mais leur point de référence est faussé. Alors, à cause de ça, c'est nous, à leurs yeux, qui sommes faux. Mes frères et sœurs, passer pour quelque chose de faux, c'est mieux que de passer inaperçu. Qu'est-ce que vous en pensez? Jésus passait pour un faux. Pourquoi? Parce qu'il se manifestait tout le temps. Nous devons savoir, nous devons connaître et nous devons utiliser la puissance des mots collés aux paroles mêmes de Jésus et puis agir. En faisant ça, on se donne un maximum de chances pour faire pencher la balance du côté où on veut et obtenir un miracle que Dieu veut. Alors, nous sommes fermement convaincus, nous autres, qu'au monde ordinaire qu'on voit, s'ajoutent des mondes extraordinaires, des entités spirituelles, il y a des anges, il y a des démons, il y a toutes sortes d'êtres, n'est-ce pas? Il y a une hiérarchie, et il nous faut absolument savoir qu'en dessous de Jésus, qui est au-dessus de tout, en dessous de Jésus, juste en dessous de Jésus, il y a nous. Personne entre lui et nous. Personne. Tout est en dessous de nous. Il faut qu'on sache ça. Sinon, nous agissons avec une foi timorée, ne sachant pas exactement quelles sont nos permissions, quels sont nos droits. Nous devons prendre très au sérieux cela, parce que le monde des esprits est régi par des règles précises, par des principes précis, des choses qui leur sont absolument propres, qui leur ont été imposées, et ils ont certains droits sur des serviteurs qui peuvent être bons, mais pas fidèles. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas, alors qu'ils manquent un peu de fidélité, parce qu'ils ne connaissent pas, ils sont bons, leurs intentions sont bonnes, mais ils ne sont pas fidèles dans l'étude, donc ils connaissent mal, donc ils agissent mal, malheureusement, un peu de travers. Parce que l'ennemi, ses puissances, ont des droits sur quiconque ne se manifeste pas d'une façon correcte. Par exemple, on sait que nous, l'amour, la paix, la joie, le calme, tout ça, ça a un véritable pouvoir surnaturel de transformation. On trouve ça dans Ésaïe 30, verset 15. Ça a un pouvoir surnaturel de transformation. Alors, il nous faut maîtriser ces connaissances pour pouvoir être efficace. Je vous parlais tout à l'heure de rendement. Tu as reçu combien de talents ? Dieu s'attend à un rendement. Nous ne devons pas agir comme des bricoleurs. Moi, quand j'ai imposé les mains la première fois de ma vie à ce paralytique qui avait la maladie de Parkinson, j'ai agi comme un bricoleur. J'avais un minimum de connaissances, mais au moins je l'ai mis en pratique, ce minimum de connaissances. Mais c'était du bricolage par rapport à tout ce que je sais maintenant. Je ne referai plus une chose comme ça maintenant. C'est-à-dire, guérir un paralytique, oui, je continue, mais pas de cette manière-là, parce que c'était du bricolage. Si vous voulez savoir, vous allez écouter mon témoignage, vous saurez comment j'ai fait. Pas faire comme ça. C'était du bricolage. Et on n'a pas le droit de se permettre de faire des choses comme ça. Il faut qu'on apprenne et qu'on devienne des experts, capables d'altérer la réalité de ce monde, de modeler les choses, en agissant sur ce qui est sur terre, autour de nous, par notre foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on doit respecter les règles de Dieu. Je ne vais pas vous en donner 150, je vais vous en donner 8. Et puis, on va peut-être développer ça dimanche, je ne sais pas, on verra. La première règle, c'est d'abord, le pouvoir surnaturel existe. Beaucoup de chrétiens vivent toutes sortes de belles choses morales, mais ne vivent rien de surnaturel. C'est dommage. C'est parce qu'ils ne croient pas que c'est pour eux aussi. Ils croient que c'est pour des grands serviteurs de Dieu, mais pas pour eux. Le pouvoir surnaturel existe. Deuxièmement, nous devons nous connaître nous-mêmes face à Dieu. Comme Dieu nous connaît, nous devons nous connaître. Pas nous connaître comme les gens disent que nous sommes, ou comme nous pensons que nous sommes, mais comme Dieu nous voit. Se connaître soi-même face à Dieu. Troisièmement, nous devons créer l'avenir par la puissance qui agit en nous. Quatrièmement, nous devons accepter uniquement que l'autorité de Jésus-Christ qui a délégué des autorités dans l'Église. Mais en dehors de ça, rien. Cinquièmement, nous devons faire attention à ce qu'on dit parce que nos paroles ont un pouvoir terrible. Sixièmement, nous ne devons pas oublier que nos résultats proviennent de nos intentions profondes. Septièmement, nous n'invoquons que le nom de Jésus. Nous croyons qu'il y a des anges, mais nous ne les invoquons pas. On peut leur parler, mais ce n'est pas les invoquer, ça. Huitièmement, nous devons être ordrés dans nos pensées, et alors nos actes le seront. Mes frères et sœurs, tout ce qu'on fait sert Dieu. Absolument tout ce qu'on fait est utile à Dieu. Et ce que nous accomplissons, ça a un impact pour l'avenir. Voilà pourquoi je dis construisons l'avenir. Ça, c'est respecter le premier point. Le pouvoir surnaturel existe. Ayons bien conscience de ça. C'est que tout ce qu'on fait, ça a un pouvoir surnaturel. Ça crée ce qui va arriver. Vous savez, une vie sur laquelle on ne prend pas le temps de réfléchir, elle n'est pas digne d'être vécue. Ça, c'est respecter le deuxième point. Nous devons nous connaître nous-mêmes devant Dieu, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir. Mais pourquoi ça? Mais comment ça se fait? Qu'est-ce que Dieu dit? Tous les gens, ça c'est le deuxième point, tous les gens désirent maintenant connaître l'avenir. Ils n'ont pas compris que la foi nous permet de le créer. Ça, c'est le troisième point. Nous n'avons pas besoin de chercher à le connaître, nous le créons en communion avec Dieu. Le mieux, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut afin qu'on crée la bonne chose, qu'on ne perde pas notre temps. Mais même si on perd notre temps, ça sert Dieu quand même et ça nous est utile parce qu'on apprend. Dieu veut qu'on apprend, qu'on ait cette satisfaction d'avoir fait quelque chose alors que finalement, quand même, c'est Dieu qui fait tout derrière. Ensuite, n'acceptez que l'autorité du nom de Jésus et son ordre établi dans l'Église, Actes 2, 4. Ça, c'est le pouvoir libérateur, celui de remettre en cause toute autorité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être soumis aux autorités tant qu'elles nous disent de faire ce qui est juste. D'accord? Mais quand on peut remettre en cause l'autorité, la puissance des gens, leur autorité sur notre vie, la puissance de l'argent sur notre vie, les craintes qui nous inspirent, la crainte du manque ou la crainte de l'abondance trop excessive, ça peut faire peur aussi. Je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait « Oh là là, il va falloir que je me paye des gardes du corps maintenant. » La peur. Ça, c'est le quatrième point. Ça nous permet de comprendre le comment des choses à faire en soumission avec Dieu. Le fait de n'accepter que l'autorité de Jésus et l'autorité d'aucune autre chose. Ensuite, faire attention à ce qu'on dit, c'est primordial, parce que l'œuvre de Dieu, elle opère 24 heures sur 24, sans arrêt. Pas seulement quand vous priez, sans arrêt. L'œuvre de Dieu se fait tout le temps. Alors faites attention à ce que vous dites, parce que ce que vous dites, ça a un pouvoir créateur. Et l'intention, c'est votre outil principal. C'est votre outil principal. Alors, il faut que vous formuliez très précisément ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, avant de vous lancer dans une action ou dans une prière. Ça, c'est le sixième point. Les intentions. Quelle est mon intention profonde? Le diable, son intention, c'était de détruire Job. Les mêmes choses, dans l'intention de Dieu, c'était de tirer de Job la gloire pour lui-même. Personne ne doit être glorifié à part Jésus. On ne fait rien uniquement par amour pour les autres. Quand on fait les choses uniquement par amour pour les autres, on trompe Dieu. Bien sûr qu'on doit faire les choses par amour pour les autres, mais surtout, avant tout, pour la gloire de Jésus. Seigneur, bénis-le, tu vois tout le bien qu'il a fait à ton œuvre, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné, tu peux bien faire ça pour lui, mon Dieu, et puis je l'aime tant, et puis si, puis ça. Non. Évidemment que si on fait tout pour la gloire de Dieu, eh bien, évidemment, ça fera du bien aux autres. Ça, c'est le septième point. Alors, il faut être ordré, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, soignez principalement votre Bible. Votre Bible. Votre autel personnel. Ça paraît bizarre hein, de dire ça. Mais je vous promets, c'est très important. La Bible, c'est quelque chose de surnaturel sur la terre. C'est un objet surnaturel sur la terre. Ensuite, évidemment, ayez de l'ordre, lavez-vous, vos pensées, tout ça, voilà, votre temps, faites attention, soyez ordonné. Ces 8 règles, c'est le minimum pour être un témoin bon et fidèle, pour être un serviteur bon et fidèle. Matthieu 25, 21 nous dit, c'est bien, tu es bon, tu es un bon esclave, digne de confiance, tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités, entre dans la joie de ton maître. Tant qu'on est bon, un bon esclave, hein, Jésus, ce qu'il dit, eh bien à ce moment-là, il considère que tout ce que nous faisons ici-bas, c'est une petite affaire, pas très important. Mais maintenant, il va nous confier de plus grandes choses. Et puis au verset 26, son maître dit, « Esclave mauvais à l'autre et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. » Ah, ça c'est terrible. Qu'est-ce que ça m'apprend? Eh bien, ça m'apprend que ce n'est pas à Jésus de semer, mais c'est à nous. Et on a le droit de semer un petit peu sur le terrain, là où oui, tout le monde passe, un petit peu là où il y a des ronces, un petit peu qu'on peut faire à tâtons, qu'on peut se tromper, il nous permet des erreurs. Bien sûr, il nous permet dans le sens qu'il nous pardonne nos erreurs. On est là pour semer. Mais si on est ultra prudent, qu'on dit, eh bien non, je ne vais quand même pas semer parce que ça, il y a trop de vent. Ça risque de partir là-bas. Non, je vais attendre qu'il y ait moins de vent. Ou bien non, il y a... Oh non, parce qu'il y a des oiseaux là, je ne vais pas semer. Je... Non, non, non. On doit semer, 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 semer. Dieu nous pardonnera le fait de nous être trompés de temps en temps, pourvu qu'on sème, sème du verbe semer. Hein? Pourvu qu'on agisse, qu'on donne la vie, qu'on produise la vie. C'est ça que Jésus veut. Il ne veut pas le faire à notre place, il ne le fera pas. L'autre, il ne l'a pas fait, il a gardé sa semence, il a gardé ça pour lui, tout seul, dans son petit coin. Il ne veut pas, non. Il n'a pas provoqué le miracle de la croissance, il n'a pas provoqué le miracle de la... pour les autres, parce que le miracle de la croissance d'une moisson, c'est pour nourrir les autres. D'accord? Voyez, frères et sœurs, faisons attention, bon et fidèle serviteur ou mauvais et paresseux. Ce n'est pas à Jésus de semer, c'est à nous de semer, à nous de servir Dieu en tant que bon et fidèle serviteur. Dieu voulant, je vous parlerai encore un peu de ça dimanche, que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni, mon Dieu. Aide-nous, mon Dieu, à comprendre ces choses afin que nos vies soient plus productives pour toi avant ton retour, que nous puissions encore accomplir non seulement des choses banales comme monsieur et madame tout le monde, mais des prodiges, des miracles, des choses qui donnent une grande lumière afin que ton nom soit glorifié par nos vies. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen.